Le podcast de l'étiquette, le guide de l'élégance masculine, est réalisé en partenariat avec Bleu de Chanel.
J'ai un haut Misericordia, c'est une petite entreprise fondée par Aurélien et qui a la particularité d'être une entreprise éthique. Il est français, mais il produit en fait à Lima. Et c'est une marque que je suis depuis de nombreuses années. Je suis fidèle. Après, on a un jean Dufry, qui est en fait fabrication française et des Cévennes. Et les lunettes, alors les lunettes, c'est une entreprise belge qui s'appelle Théo, avec qui je collabore depuis des années. Voilà. Et on finit avec les chaussettes, qui sont les chaussettes Miss Aigle, qui sont, eux, dans le Tarn. C'est aussi une entreprise de patrimoine vivant. Donc, quand je m'habille le matin, je peux mettre en fait un visage sur l'écosystème que je fais vivre à travers mes vêtements. Je m'appelle Mathalie, je suis designeureuse. J'habite Paris, mais je viens d'un petit village dans la Marne qui s'appelle Normé. C'est un petit village de 80 habitants qui est dans la Marne et qui se situe dans la Champagne. Voilà, c'est une enfance heureuse dans une campagne qui est un peu quand même une campagne spécifique puisque c'est une campagne qui s'est industrialisée énormément. Voilà. Avec mes quatre, on était quatre en fait, donc dans une famille qu'on peut nommer nombreuse. Et avec cette spécificité d'avoir une jumelle, donc le fait d'être jamais seule et de pouvoir partager tous les moments de la vie.
Habitude, le podcast du magazine L'Étiquette.
Mes parents sont agriculteurs, étaient agriculteurs parce que mon papa est à la retraite et ma maman est décédée. Donc en fait, c'était des vêtements plutôt, on va dire, fonctionnels, des vêtements qu'on porte à la campagne. Mon papa avait souvent des cottes, voilà. Et ma maman, c'était pas. Bien sûr, il y avait des vêtements différents le dimanche et la semaine. Il y avait un peu l'idée de suivre la mode, mais elle arrivait bien, bien tard, en fait. C'est-à-dire que les pantalons à pattes d'œuf, par exemple, sont arrivés peut-être 10 ans après. Voilà, mais c'était... Voilà. C'est ce dont je me souviens. Il va y avoir quelque chose de très spécifique, c'est que je suis jumelle. Donc, je suis habillée pareil que ma jumelle, sauf qu'on n'a pas la même couleur, en fait, de vêtements. Il n'y a pas de problème à être habillée pareil, puisqu'en fait, avoir une jumelle, c'est plutôt un plaisir. Hein. C'est d'être jamais seule, pouvoir partager des choses. Ne même pas avoir besoin d'en parler, puisqu'on se comprend tellement que voilà, on a même un langage spécifique, en général. Et voilà, donc ce n'est pas du tout un problème. Ce qui pose plus problème, c'est peut-être le fait d'avoir des injonctions pour les filles de se mettre en jupe, par exemple, à un moment donné, et ce que je ne voulais pas forcément. Donc très rapidement, j'ai essayé de résister à ces codes qu'on a dans les petits villages, où en fait, on n'a pas d'anonymat possible, puisqu'on est connu, et tout le monde regarde un peu le comportement de chacun. Voilà, c'est plutôt ça qui m'a gêné à un moment donné. Et donc, j'ai fait cette résistance par rapport à l'idée de porter des robes. Et voilà, et ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai ce caractère un peu androgyne, il vient de là, en fait. Je ne l'ai pas vraiment analysé, mais je pense que ça vient de cette partie-là. Les choix de vêtements étaient un peu compliqués parce qu'on allait peut-être une ou deux fois en ville chez un parent. Donc je me souviens que c'était compliqué parce qu'il n'y avait pas de choix tout simplement. Donc c'était aussi très difficile de trouver sa personnalité dans ce non-choix. C'est quelque chose qui est peut-être venu justement, qui a pu se déclencher après avec l'arrivée à Paris, où là où on a vraiment la possibilité de choisir. Et voilà, et de suivre des créateurs, vraiment cette envie de suivre des créateurs qui s'expriment, qui ont un peu les mêmes valeurs et avec qui on va pouvoir faire un bout de chemin. l'arrivée à Paris, c'était une volonté. C'est-à-dire que c'est un rêve depuis, voilà, depuis l'adolescence, justement. On se dit que... On a accès à un certain type de à l'agriculture, mais on voudrait avoir accès à la culture et on sait que c'est pas vraiment dans ce village qui fait un peu partie de la diagonale du vide. Vous voyez ce que je veux dire à l'époque il y avait pas de musée, il y avait pas toutes ces expositions en région. C'était un peu compliqué. Donc notre rêve, à ma sœur et à moi, c'était de venir à Paris, justement, et d'en découdre avec cette dynamique aussi de la ville. Et ce qu'on a fait. Ma sœur, elle était passionnée de cinéma, et moi, je suis venue à Paris pour rentrer dans une école de design qui s'appelle l'ENSI. Voilà. Et donc, ça a été un moment merveilleux de découverte à la fois de la ville et de découverte de cette culture. On était avide de tout voir, de tout entendre. On se souvient forcément... Par exemple, on avait pris des abonnements à l'IRCAM pour voir, entendre voilà, la musique contemporaine. Bien sûr, tous les musées, Beaubourg aussi, avec sa bibliothèque ouverte. Voilà, c'était un moment merveilleux et en même temps la découverte de ce métier de designer dans une école qui est aussi très très bienveillante. Et voilà, ça pendant 5 ans de bonheur parfait. C'est quand même au cours de ma scolarité que je me coupe ces cheveux, à la fin de scolarité, que je trouve cette coupe de cheveux en bol. Et je me dis, ça y est, c'est moi, je ne bouge pas, je me sentais bien comme ça. À un moment donné, j'avais envie d'une coiffure qui me permette de respirer. Alors, vous avez trouvé ça... Et en fait, voilà, ça permet de bien respirer, de bien ventiler la tête. C'est plutôt la musique, en fait, qui nous oriente. Alors, j'avais fait un stage à Berlin, juste avant la chute du mur, et... avec Francis, mon amoureux, mon mari d'aujourd'hui, on s'est intéressé à la musique industrielle parce qu'à l'époque, c'était à Berlin, c'était vraiment une contre-culture qui se développait. Il y avait à Berlin essentiellement les gens qui voulaient pas faire leur service militaire et aussi une population âgée, donc ça donnait une espèce de mélange assez détonnant. Donc on écoutait des groupes comme Archoson de Nobauten, Ditoduce Doris, Dosis, etc. Des groupes assez extrêmes. Et en revenant en fait à Paris, on s'est plutôt tourné vers les groupes de Cold Wave. Ça veut dire que, par exemple, Cass Product, on aimait bien beaucoup Cass Product. Et donc il y avait aussi un style vestimentaire qui allait avec cette musique qu'on appréciait beaucoup. Je ne sais pas si c'est à l'époque où on a identifié les chaussures de Ron Orb. C'était des chaussures très, très... Ouais, je ne sais pas, c'est un jeune créateur avec qui on a collaboré d'ailleurs après, puisqu'on a fait un lieu où l'idée, c'était de mélanger le design, la mode et la musique. Il y avait Renorb pour la mode et Fcom pour la musique. Et l'idée, c'était de faire en sorte qu'on puisse faire des passages en fait, entre ces trois disciplines. Puisqu'en fait, quand on est faire une musique, en général, on ne s'intéresse pas forcément à la mode. Et justement, l'idée, c'était de faire des passerelles entre ces disciplines. Voilà. Et donc... Renard faisait des chaussures très 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 imposantes qui ressemblaient presque plus je sais pas comment définir, mais c'était des chaussures en cuir avec une idée d'avoir quelque part une chaussure un peu matelassée, vraiment très très affirmée. Et voilà, et assez futuriste aussi à l'époque. Je vais d'abord travailler en Italie pour me couper un peu de l'école, c'était un cocon un peu bienveillant, comme je l'ai déjà dit. Et en fait, l'idée, c'était de me dire, bon, ben maintenant, il n'y a plus le choix, il faut que je gagne ma vie. Et donc, j'ai voulu collaborer avec Denis Santacchiara, parce que quand je voyais un de ses objets, je me disais, ben tiens, j'aurais bien aimé l'avoir fait, cet objet. Et voilà, donc ça a été une année aussi très intéressante à Milan, qui a fait une espèce de plateforme pour tout ce qui est design plutôt mobilier. Santa Chiara est une personne qui est d'abord un artiste qui est devenu designer et qui est aussi quelqu'un de très humain avec une petite structure. Donc ça m'a vraiment confortée dans cette idée de travailler à petite échelle et aussi d'avoir la possibilité de faire ce métier en poussant au maximum le curseur de l'artistique, tout simplement. Je crois que j'avais déjà cette envie d'être entourée de couleurs. Donc, j'aimais bien à l'époque, je pense, porter des vêtements un peu 70 avec des couleurs très, très affirmées, des pantalons larges. Je pense que ça donne une dynamique très, très différente, en fait, les pattes d'eff. En fait, quand on voit quelqu'un traverser la rue avec les pattes d'eff, ça évoque en fait une certaine insouciance, une certaine volonté de traverser la vie, mais pas la traverser sans qu'il se passe quelque chose. Peut-être justement la traverser en provoquant des choses autour de soi. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Le rapport à la couleur, il est peut-être du fait que je suis née dans une région où il y a beaucoup de craie, c'est blanc. Donc en fait, c'est une page blanche. Ça, je l'ai identifié plus tard aussi. J'avais besoin de, aussi en partant de ce village, d'affirmer, de contrebalancer en fait cette page blanche quelque part. Il y a une espèce d'union entre le sol et le sol et le ciel en fait. Et en partant de mon village natal, voilà, j'ai essayé d'inscrire d'autres références et c'est aussi cette volonté de dire que la couleur, ça a beaucoup d'importance dans notre vie. C'est que c'est aussi quelque chose qui n'a pas besoin d'être interprété. Donc, en fait, on va réagir à la couleur de façon beaucoup plus instinctive. Et donc, tout le monde a accès à la couleur. Tout le monde, donc, en fait, faire des objets colorés ou des espaces colorés, c'est en quelque sorte une façon de rendre les choses appropriables pour moi. Donc, j'ai toujours considéré que la couleur était une alliée. Et que j'allais pouvoir justement aller plus loin dans la remise en cause des typologies de nos espaces ou nos mobiliers. J'ai fait les costumes et la scénographie, en fait le décor pour un ballet classique à l'Opéra de Bordeaux. Donc là, j'ai abordé le dessin de costumes, mais jusqu'à maintenant, ce n'était pas dans ma pratique en fait. J'ai utilisé la même approche, en fait, pour faire du vêtement et pour faire de l'objet, en fait. Je trouve que c'est pas très différent. Après, c'est la matérialisation qui demande un savoir-faire complètement différent. Costume, c'est Gisèle. Donc, c'est un ballet classique, romantique. La demande, c'était aussi de voir comment on pouvait placer ce récit et le faire devenir un peu plus contemporain. Gisèle, c'est des vignerons et puis c'est les propriétaires terriens. Il y a une espèce de deux mondes qui sont là en présence. Et j'ai tout de suite pensé que c'était intéressant de revoir un peu ce contexte en imaginant que les gens, les vignerons, ce sont ce que j'ai appelé les gens d'en bas. Et les gens d'en bas, ce n'est pas simplement les vignerons ou les gens qui travaillent la terre, mais ça va être tous ceux qui veulent défendre le vivant. Et les gens d'en haut, c'est ceux qui, justement, veulent garder leurs privilèges et ne pas bouger. Donc ça m'a donné en fait une direction assez puissante, je trouve, pour revisiter en fait le premier acte. La création des costumes, elle dépend de ça. Donc les gens d'en bas, je voulais travailler une matière très peu noble et l'ennoblir en fait. Et par là même, montrer aussi que l'opéra est un lieu où il y a tous ces savoir-faire qui sont embarqués. Donc, je suis partie d'un tissu gaufré qui est en fait de la serpillière, parce que je trouvais que ça allait bien avec cette idée de gens qui défendent le vivant, partir de quelque chose de très simple et une matière magnifiée. Bien sûr, on l'a teintée avec des couleurs assez vives, du orange et du vert. Et on a en fait, en colorant cette matière, ça devient presque... Il y a les fils en fait qui ressortent avec une autre couleur. Enfin, il y a ça donne en fait une matière qui est très intéressante à l'image d'un tweed en fait. Et donc le pari d'en oublier la matière a fonctionné énormément. Puis les femmes sont en orange et les hommes sont en vert pour donner juste simplement des couleurs complémentaires. Et en ce qui concerne les jambes, en fait, j'ai eu cette idée d'avoir un sol blanc on a un dégradé, c'est-à-dire que sur les jambes, on part du blanc et on va vers le vert pour montrer qu'ils appartiennent à la terre et qu'ils font corps avec cette terre, qu'ils défendent tout simplement. Donc des petites idées comme ça qui ont vraiment fonctionné. En ce qui concerne les habits des gens d'en haut, au contraire, on est dans une matière qui est synthétique, qui plus artificielle, qui en fait est une matière qui sert à faire des maillots de bain, donc qui va avoir cette capacité à faire de beaux volumes. Et donc là, on est sur des capes que j'ai voulu très très courtes, un peu à l'image, plutôt si on peut donner une image de Courrèges, et avec des couleurs, un dégradé de couleurs qui va du rose au violet, voilà, en jouant un peu cette palette qui est plus pour moi une palette du paraître en fait, et moins quelque chose de naturel. C'est les rencontres en fait qui font les projets, hein, donc... Voilà, donc je ne force pas les choses. Les gens viennent me proposer des choses qui vont bien au-delà de ce que j'aurais pu imaginer. En tout cas, je ne provoque pas. Je pense que c'est mieux de... Un projet va être bien si on a un bon commanditaire, en fait. C'est pas, voilà. Donc, on peut essayer de provoquer les choses, mais moi, ce n'est pas du tout comme ça que je fonctionne. Je pense que l'important, c'est de faire le projet avec les gens, avec qui passent, en fait... la porte et qui ont envie de collaborer parce qu'ils ont vu d'autres projets que j'ai fait par ailleurs et qu'ils se disent à un moment donné ça peut leur apporter aussi quelque chose de travailler avec moi. Je suis pour des lunettes qui ne se cachent pas, en fait, voilà, qui se montrent plutôt. Et quand j'ai eu besoin de porter des lunettes, j'en ai porté aussi petites. Hein, je me suis dit que c'était... J'étais dans la recherche de lunettes assez, assez fortes, qui affirment et qui sont présentes. Je portais des lunettes Mitli parce que je trouvais qu'elles étaient bien, justement, dans cette idée. C'est l'idée, là encore, c'est pas vraiment féminin. C'est plutôt masculin. Je suis un peu la logique. En fait, voilà. Théo, c'est une marque qui a la particularité de colorer énormément. Ils affirment la couleur aussi, mais ils étaient plutôt dans des montures assez fines. Donc, la première collection que j'ai proposée, il y avait 12 paires différentes et elles étaient vraiment... celle-ci fait partie de la première collection dans l'idée d'affirmer vraiment... alors c'est avec de l'acétate, d'affirmer des contours très forts en fait. Hein. Je garde celle-là. Alors j'ai changé un petit peu, mais celle-là elle me convient parfaitement.
Habitude, le podcast du magazine L'Étiquette qui parle d'habits.
Le surconfort, en fait, le fait de se surprotéger. Depuis très longtemps, depuis que j'ai dessiné les premiers meubles, je me suis aperçue qu'on revendiquait une maison cocon, mais une maison cocon, ça a des conséquences, en fait. Ça a des conséquences dans le fait de se surprotéger, de diminuer la porosité avec l'extérieur, de diminuer les relations avec les voisins, et surtout de rester passif, en fait. Il y a une corrélation qui est évidente. Et si on est déjà passif à la maison, on ne va pas être actif dehors pour relever un peu tous les enjeux qu'on a à relever ensemble. Donc, c'est pour ça que je me suis très, très rapidement intéressée à des structures dans la maison qui permettent de bouger, de s'approprier les espaces en fonction de qui il y a dans l'espace, en fonction du moment de la journée, etc. Mais aussi cette notion de partage, comment on peut partager un peu plus les choses, parce que ce n'est pas parce qu'on vit en famille qu'on partage aussi énormément. Voilà. Donc toujours ces notions de commun qui sont pour moi essentielles, ces notions d'avoir une appropriation possible des structures et surtout cette notion d'être actif. Tous ces éléments sont très fortement connectés. Également la même notion de se dire que le confort, ça ne veut pas dire forcément... Enfin, il faut qu'on ait un confort, mais un confort qui ne soit pas passif, en fait. Donc, c'est-à-dire qu'on peut avoir un pull épais qui peut nous permettre justement de sortir et d'avoir envie d'être actif. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais ce n'est pas un pull épais qui nous permet de rester à la maison, en quelque sorte. Les hugs, voilà. Ça, par exemple, ça, je trouve que c'est une aberration totale. Parce que les gens finissent à porter ça à l'extérieur, mais en fait, voilà, on a l'impression que... Vous voyez, qu'on se surprotège. Non, je trouve que ça ne c'est pas du tout. Ça a été détourné complètement. Voilà, et c'est ce qui fait que quand on voit les gens se chausser avec ces chaussures, on se dit bah, ils sont pas très bien outillés pour affronter les problèmes dont on a besoin. Voilà, je pense, hein, moi, c'est un peu réducteur, mais voilà. Moi, j'aime bien la diversité, en fait. Donc, ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est qu'il y ait de la couleur, c'est que y a, voilà, les gens osent s'exprimer. Je pense qu'on arrive à le faire avec les vêtements, beaucoup plus qu'avec les intérieurs, déjà. Donc, ma bataille, ça a été un peu ça, c'était de se dire pourquoi les gens osaient avec leurs vêtements, mais pas avec leur intérieur. Il y a une espèce de... Je pense qu'on a un rôle aussi à jouer en tant que créateur d'intérieur de ce point de vue-là. Parce que le vêtement, soi-disant, on va le changer souvent, mais là, ce n'est plus le cas. En fait, maintenant, il faut, il faut réduire notre consommation de vêtements. Donc, en fait, voilà. J'achète un petit peu encore de vêtements, un peu de jeans, un peu de vêtements chez Aurélien, Misericordia. Mais voilà, plus trop, en fait. J'ai même tendance à aller ressortir des pantalons que j'avais un peu oubliés au fond de l'armoire. Justement, ces pantalons très colorés, avec pourquoi pas des pattes d'éléphant. Je trouve que j'ai envie de reporter ça en ce moment. J'ai pas beaucoup de vêtements et en même temps, je mets toujours un peu la même chose. Donc, en fait, voilà, c'est pas... Bah, c'est à peu près ça. C'est un jean avec un haut un peu plus affirmé. Je pense que c'est... Voilà, c'est ça. Le matin, quand je me lève, des fois, j'ai envie d'affirmer plus. Et puis, des fois, j'ai envie de sauter dans le jean qui est là. Il n'y a pas besoin de réfléchir. Je pense qu'en tant qu'artiste, on peut faire un peu ce qu'on veut. Donc, en fait, on n'a pas besoin d'être dans une posture. Moi, j'ai jamais été dans une posture. Je suis moi et voilà. On m'a jamais fait comprendre que j'étais pas à ma place. Et je pense que c'est aussi à nous de l'affirmer. Comme je le dis, je suis pas dans cette idée de suivre les codes féminins. Donc en fait, on devient très 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 comment dire. On le voit le regard des gens. On le voit et c'est, ce qui est assez beau, c'est ça, c'est qu'on devient très sensible et que ça nous donne un code de lecture qui est beaucoup plus profond sur qui on a en face de nous. Et je peux vous donner un exemple. Quand je voyage, je pars de France, je suis femme. Mais quand j'arrive par exemple à Singapour, d'un seul coup, je suis homme. Tout simplement parce que j'ai les cheveux courts. Et souvent, cette perception, en fait, elle donne... c'est parce que j'ai développé une espèce de sensibilité, de comprendre en fait comment on me regarde, en fait. Et donc, je suis peut-être un peu plus sensible sur justement la façon dont on a la possibilité ou pas de briser les codes ou d'aller un peu plus loin que les codes dominants. Je vais chez un coiffeur chinois. Parce que je me suis aperçue que j'arrivais pas à avoir la coupe au bol vraiment, parce qu'il faut couper cette partie-là. Et en fait, c'est un peu contre... Enfin, je sais pas. C'est une chose que j'arrivais pas à avoir avec les coiffeurs, on va dire. Et donc là, voilà, je fais un peu les deux. Puis je raccourcis aussi de temps en temps. Voilà, j'ai pas envie d'y aller parce que c'est... Je fais de l'entretien moi-même, voilà. Ouais, j'ai un petit blouson Courrèges que j'avais acheté pour me marier. Cette pièce, par exemple, c'est un souvenir assez beau puisque en même temps, j'avais acheté une jupe, mais en fait, j'étais enceinte, donc je n'ai pas pu mettre la jupe. C'était simplement un petit blouson orange vif, voilà, assez iconique de la marque.
Habitude, le podcast du magazine L'Étiquette.
Je suis devant un drapeau français, bleu, blanc, rouge. Un peu délavé pour le bleu. Une tenue assez confortable. Les mocassins sont assez affirmés. contrastés. Enfin, je ne sais pas comment, que dire d'autre.